Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Et voit le visage quasiment fixe du Phénicien. Merde, il est mort. Mais c'est pas moi. Je veux pas d'histoire. Vite, il sort de la cabane. Il se met à courir. Il dépasse deux garçons qui l'ont vu sortir de la cabane. Les enfants lui crient lorsqu'il les dépasse. Ouh, t'as vu, Jules? Il a le feu au cul. Jules ne se retourne pas. Les deux enfants, qui ont une dizaine d'années, certains, tous les deux, et habillés pauvrement en haillon, maigres et sales, un des petits dit « On va à la grange ?» Et ils y vont. Ils sont entrés, plongent dans le foin, et s'assoit. Puis, tout d'un coup, un des enfants voit Félicien. Il dit à l'autre, « Il y a quelqu'un ? Où ? Là, là derrière. Qui c'est ? Je sais pas, viens. » L'autre garçon va vers l'autre, et tous les deux, ils regardent Félicien un peu plus loin, allongé à terre, qui ne bouge pas. Le garçon qui est venu près de son copain dit « Je vais lui dire qu'on est là. Psieu, psieu !» Pas de réponse, il dit. « Il est peut-être mort. Psieu, psieu !» Viens, allons voir. » L'autre lui dit « Non, j'ai très peur. » L'autre prend par la main et ils y vont tous les deux. Ils sont tout prêts. Ils voient que le visage fixe et qu'il ne bouge pas. Psieu ! L'autre dit, merde, il a crevé, vite sortons. Ils sortent en vitesse de la grange. Ils se mettent à courir. Ils vont jusqu'au village. sur la place du village, le curé, qui vient de sortir de son église, est un gros homme, cheveux gris, en costume gris, l'air jovial. Il voit les deux garçons courir. Il leur fait « Pourquoi courez-vous si vite ?» Un des garçons lui dit « On a trouvé, dans la grange, un cadavre. » Le curé leur dit « Vous en êtes sûr ?»« Oui, monsieur le curé. » Le curé leur dit « Allons, il faut me montrer, parce que ce n'est pas bien de laisser là-bas. De laisser là-bas. Allez, on y va. » Et ils y vont. Que le curé connaît bien les petits et sait que ce ne sont pas des menteurs. Arrivé à la grange, il trouve le corps. Il dit « Mince, il est bien mort, le pauvre, il est bien jeune. Les enfants, vous restez ici. » « Non, moi je vais rester ici. Vous allez aller à la mairie, prévenir le maire, qui vienne avec les gendarmes. Allez vite. » Et les enfants courent au village. Le curé se baisse et regarde le mort. Il est bien jeune. Les deux enfants arrivent au village. Ils vont de suite à la mairie qui se trouve aussi sur la place en face de l'église. Une fois entrée dans la mairie, une grande femme, cheveux blonds, robe rose, est à la banque et leur demande « Vous désirez ?» Un des garçons dit « Le curé veut que l'on dise au maire qu'il faut qu'il vienne, qu'il prévienne les gendarmes, parce qu'on l'a vu à la grange abandonnée, il y a un mort. » La femme leur dit « Ce n'est pas une blague au moins. » L'enfant qui a parlé lui dit « Oh non !» Elle prend son téléphone et fait un numéro. Et dit « Allô, c'est l'accueil. Il y a deux jeunes, les Fernand, qui disent que le curé a dit qu'il fallait que vous appeliez la gendarmerie. Bien. » Elle dit aux enfants « Il vient vous voir. » Et, deux minutes plus tard, descend des escaliers le maire. C'est un grand gros homme à cheveux et moustaches grises. Il porte un costume gris. Il va vers eux. Et leur demande « Que se passe-t-il ? » Les enfants le lui disent. Le maire leur dit « C'est pas une farce au moins. » « Non, monsieur le maire. » Le maire dit « Bien, je vais aller voir. » Avec mon téléphone portable. Si ce n'est pas vrai, je téléphonerai à la gendarmerie. » Et ils sont allés à la grange. À la grange, le maire voit le curé qui lui montre le petit. Le maire le regarde bien et dit « Il n'est pas d'ici. C'est un Parisien. Ça se voit tout de suite. Ce corps de jeune des villes et cette élégance, la coupe de ses cheveux, ce doit être un vacancier. Il est mort de quoi ?» Le curé lui dit « On dirait, c'est qu'il a été étranglé. Peut-être qu'il s'est étendu en jouant. » Le maire lui dit « Bien, Je vais appeler la gendarmerie. Prends son téléphone portable. Et les prévient. Puis ils attendent leur arrivée. Le maire dit aux enfants et au curé. Vous restez ici. Vous êtes des témoins. Les enfants s'assoient dehors devant la grange. Quarante-cinq minutes plus tard, les gendarmes arrivent avec une camionnette et une voiture. Sortent de la camionnette deux gendarmes, la voiture aussi. Le maire est sorti de la grange, va à eux. Le brigadier chef, un grand homme fort, à moustache noire, va vers lui et lui demande.
Alors, que se passe-t-il?
Le maire lui dit. Il y a, c'est des enfants qui ont trouvé dans la grange le corps d'un jeune adolescent. Alors je vous ai fait venir. Le brigadier demande. Où est-il?
Suivez-moi.
Et le maire va lui montrer le corps. Le gendarme se baisse, le regarde et demande.
Vous savez qui c'est?
Le maire lui dit.
Non, c'est sûrement un vacancier.
Le brigadier retourne vers les gendarmes et leur dit.
Photo, empreinte. Et vous m'embarquez le corps pour faire autopsie.
Les gendarmes entrent dans la grange avec le matériel et un brancard. Le brigadier demande au maire en voyant les enfants près de la porte.
Ce sont eux?
Oui.
Le brigadier va vers les enfants. Il leur dit.
Alors, c'est vous qui avez trouvé le mort?
Un des enfants dit.
Oui, monsieur.
Comment tu t'appelles? L'enfant dit.
Rémi.
Fernand, monsieur.
L'autre dit.
Olivier.
Le gendarme lui demande.
Comment avez-vous trouvé ce mort?
Rémi lui dit.
Comme ça.
Comment comme ça?
On est entré dans la grange et on l'a vu.
Il y a longtemps, ça?
Olivier lui dit.
Non, on est allé de suite au village et le curé nous a dit de le dire au maire.
Le brigadier lui demande.
Vous n'avez rien vu d'anormal?
Quelque chose
que vous auriez vu avant d'avoir trouvé le corps? Une personne par hasard dans le coin?
Olivier lui dit.
Si, on a vu le père Martin sortir de la grange en vitesse et courir. Après, on est allé à la grange et on a vu le mort.
Le brigadier connaît bien le père Martin, un pauvre air qui vit un peu de rien, de rapine et qui vagabonde. Il dit que le père Martin, ça peut être intéressant. Adrien a fait sa déclaration à la gendarmerie et a laissé la photographie du petit. Puis il est retourné tristement au château et retrouve la famille au salon. Il demande à Auguste.
Rien de neuf?
Non. Et toi? Puis, il est encore tôt.
Adrien va s'asseoir tristement au milieu d'eux.
Frédéric, Eddie et Gilles ne disent rien. Eric s'en fiche de ce Félicien, ce petit pédant qui, soi-disant, sait très bien jouer de la guitare.
Une heure plus tard, on frappe à la porte. Amélie fait « Entrez !» Entre le domestique. On demande Monsieur Adrien au téléphone. Adrien, inquiet, tremblant, se lève et dit « Je vous suis !» Ils le regardent tous quitter la pièce. Le domestique le mène au bureau d'Auguste. Je fais entrer, on ferme la porte. Adrien va prendre l'appareil qui est sur le bureau.
Allô? Oui?
Monsieur, Adrien Borges.
Oui, monsieur.
C'est la gendarmerie de... Pouvez-vous venir à la gendarmerie, s'il vous plaît, monsieur?
Adrien demande. Vous l'avez retrouvé? Comment est-il?
Le gendarme lui dit. Je ne sais pas, monsieur. Je suis juste le standardiste. Et la gendarmerie m'a dit de vous dire de venir. Tout de suite.
Adrien tremblant dit. Bien, je viens. À tout à l'heure.
Et il raccroche. Sort du bureau. Pour aller au salon. Il va s'asseoir et leur dit,
il faut que j'aille à la gendarmerie. Oui, il faut que j'aille à la gendarmerie.
Auguste lui demande,
on l'a retrouvé? Je sais pas. Ils n'ont rien voulu me dire. Il faut que j'y aille de suite.
Il est très inquiet, Auguste lui demande.
Tu veux que j'aille avec toi?
Non, merci.
Auguste lui dit, prends la voiture.
Merci.
Et il les quitte.
Dit. Il doit y avoir du nouveau. Ils l'ont peut-être trouvé.
Auguste soupire et dit.
Et comment? Dans quel état?
Frédéric regarde Gilles, qui ne bouge pas.
Amélie dit. Pauvre Adrien, pour son anniversaire. Quelle tristesse.
Éric lui dit. Quelle idée aussi de s'occuper d'un étranger.
Amélie lui dit. C'est peut-être pas un étranger pour lui.
Et qu'est-ce que tu en sais?
Je ne sais pas.
Adrien est à la gendarmerie dans le bureau du brigadier. C'est une vaste pièce blanche avec des meubles en bois marron. On l'a fait asseoir face au bureau.
Adrien demande. Vous avez des nouvelles, monsieur?
Le gendarme lui dit. Oui, nous l'avons retrouvé. Malheureusement.
Adrien est effondré.
Le gendarme lui dit. Il faut que vous veniez reconnaître le corps.
Adrien demande. Comment le corps?
Gendarme se lève et lui dit. Suivez-moi, monsieur.
Se lève et suit le gendarme. Ils sortent du bureau. Et de la gendarmerie.
Le faire entrer dans une voiture. Et l'on le mène à la ville voisine où se trouve la morgue. De voiture, le gendarme le fait rentrer dans un bâtiment tout en verre. Adéa ne sait plus ce qu'il fait. Il sait et c'est tout. Il suit. Hall d'accueil, métal et néon, couloir, porte de fer. Un homme en blouse blanche leur ouvre une porte. Ils entrent. C'est une pièce nue, une table, où se trouve un corps recouvert d'un drap. Gendarme dit à Adrien, « Venez voir, monsieur. » Adrien s'approche. Le gendarme soulève le drap. Adrien ferme les yeux en disant « Mon Dieu, faites en sorte à ce que ce ne soit pas lui. Mon Dieu !» Et lui dit C'est lui, monsieur ? Adrien ouvre les yeux et il crie « Non !» Et en pleurant « Oui !» Il manque de s'évanouir. Le gendarme recouvre le corps et prend à l'épaule Adrien. « Je suis navré, monsieur, mais il le fallait. » Puis, il est ramené à la gendarmerie. Il est ramené au bureau. Le gendarme lui dit, je vais vous poser quelques questions. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois?
Avant-hier, au soir. Il devait partir, passer la journée avec mes deux neveux, se promener dans la campagne.
Le gendarme demande,
et deux jeunes gens sont ici?
Oui.
Bien, je vais les interroger. Ce jeune homme, qui est-il pour vous ?
Adrien le lui dit.
Puis le brigadier va avec Adrien interroger les deux garçons. Arrivé au château, on le mène au salon.
Le brigadier dit à Auguste, « J'aimerais essayer de parler aux deux garçons qui sont partis avec le jeune homme. » Auguste va chercher Gilles et Frédéric. Frédéric est inquiet, se demande ce qui va se passer et ce qu'il va pouvoir dire aux gendarmes. Heureusement, les gendarmes les interrogent tous les deux et Gilles en premier, comme ça Frédéric n'aura qu'à confirmer ce que dit Gilles. Gilles dit qu'ils ont passé la journée dans les bois et au bord de l'eau, que le soir Félicien a voulu rentrer avant eux. Il n'avait pas voulu qu'on leur accompagne. D'ailleurs, ils n'avaient qu'un quart d'heure de marche et qu'il faisait encore jour. Voilà. Non, ils n'ont rien vu de suspect. Rien. Le lendemain matin, les gendarmes retrouvent le pauvre Clodo Martin dans un champ, à moitié ivre. On l'amène à la gendarmerie pour l'interroger. Le pauvre homme ne se souvient de rien. Il bafouille, s'embrouille. Non, il n'avait pas vu le corps. Oui, il l'avait vu, mais de très loin. Il demande. Vous avez couché dans la grange?
Oui.
Et le corps, y était?
Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. C'est en me réveillant que je l'ai vu.
Brigadier lui demande. Quoi, tu as pensé en le voyant?
Je croyais qu'il était endormi. Alors j'ai voulu le réveiller parce que je me suis dit qu'il est peut-être venu avec moi, qu'il devait peut-être vouloir faire un bout de chemin avec moi.
Donc, il était avec toi et vous étiez ensemble dans la grange et tu l'as tué. Tu l'as rencontré sur la route. Il faisait nuit. Tu as dit quelque chose pour le convaincre de te suivre dans cette grange. Tu l'as étranglé.
Pourquoi?
Le pauvre homme lui dit,
je ne sais pas, je ne comprends rien à ce que vous dites. Je ne sais pas, je ne sais même pas si j'étais dans cette grange et pourquoi j'y étais, je ne sais plus.
Le brigadier lui dit, je crois que vous étiez dans un état d'ébriété et que vous avez tué ce pauvre jeune homme.
Martin lui demande, et pourquoi aurais-je fait ça?
Le gardien lui dit, une folie causée par l'alcool ou parce que vous avez des goûts pervers. Le médecin nous le dira. Allez, nous allons vous mettre aux arrêts dans une cellule.
Mais je suis innocent!
En êtes-vous bien si sûr que ça?
Quoi?
Rien. Allez. Le pauvre homme est arrêté, accusé de ce crime horrible. L'on prévient Adrien qui est effondré. Frédéric se dit,
nous sommes sauvés.
Gilles ne dit rien. Les vacances sont finies. et l'on s'en retourne très tristement à Paris. La police et la justice pourraient les interroger là-bas. Retour triste, même pour les deux garçons. Les jours passent. Brigitte, la fille d'Auguste Borch, 25 ans, grande, mince, blonde, yeux bleus, très belle et mode, a fini ses études d'avocate. Elle habite Paris, place Clichy, et cherche du travail. Elle a posé sa candidature pour être avocate conseil chez le groupe Franblanc. Judith a reçu la lettre de candidature et a décidé de la recevoir. Elle lui envoie une lettre pour lui donner rendez-vous pour un entretien. Brigitte, toute heureuse, se rend à ce rendez-vous. Il est 15h, mercredi, et s'est habillée de tailleur bleu roi, chemisier blanc, chaussures cuir bleu et sac à main aussi bleu. Pas de bijoux, sauf une montre de chez Cardin. Elle entre dans le siège. Va à la coille. Une hôtesse en tailleur rouge, blonde, lui demande « Vous désirez, mademoiselle ?» Brigitte lui dit « J'ai rendez-vous avec la directrice des relations humaines. » Donc Brigitte sait qu'elle est nue sur son tailleur, lui dit « Veuillez lui suivre, nous allons aller à l'accueil. » Elle le mène à la banque. Où se trouve une autre hôtesse, toujours en tailleur rouge et nue dessous. Elle est blonde. L'hôtesse lui dit « Je vous amène cette personne qui a rendez-vous avec la directrice des relations humaines. » L'hôtesse qui est à la banque demande à Brigitte « Vous avez une lettre, madame ?» Brigitte lui tend sa lettre. La femme tape sur son ordinateur et dit « Oui, vous avez rendez-vous à 15h10. Votre carte, s'il vous plaît. » Brigitte lui tend sa carte. Sur un écran que l'hôtesse met sur l'écran. Mettez votre pouce. Elle met le pouce sur l'écran. Oui, c'est bien cette personne que l'on attend. Elle dit bon. Prend son téléphone. Fait un numéro. Allô, ici l'accueil. Nous vous amenons le rendez-vous de 15h10. Mademoiselle Brigitte Borch. Elle dit, amenez cette personne au bureau de la directrice des relations humaines. L'hôtesse qui l'a amenée Brigitte, elle lui dit, venez mademoiselle. et elle l'amène à l'ascenseur. Ils entrent dans l'ascenseur. Arrivés à l'étage, ils sortent de l'ascenseur et se trouvent nez à nez devant une hôtesse. L'autre lui dit: c'est mademoiselle Brigitte Borch qui a rendez-vous à 15h10 chez madame la directrice des relations humaines. L'autre lui dit: bien, si vous voulez me suivre, madame. Et Brigitte commence à en avoir marre de tout ce cérémonial princier. L'hôtesse le met devant l'hôtel d'accueil et lui dit: c'est mademoiselle Borch, Brigitte, le rendez-vous de 15h10. La secrétaire, brune, tailleur rouge, pulpeuse, lui dit: bien, et fait un numéro de téléphone. Allô, mademoiselle, vient d'arriver le rendez-vous de 15h10. Bien. Et elle dit: amenez cette personne au bureau de mademoiselle la directrice des relations humaines. Et l'hôtesse dit à Brigitte: venez me suivre, madame. Et elle la suit. Elle l'amène à une porte doublée. Appuie sur un bouton. Un voyageur vert s'allume. Elle ouvre la porte et fait entrer un bureau de Judith. Ouf! Brigitte est surprise par cette grande pièce immense. Pièce luxueuse. Baie vitrée, et cette belle femme rousse à son bureau, un tailleur rouge vif et nu dessous. La femme lui dit: venez vous asseoir, mademoiselle. Et elle va s'asseoir dans un fauteuil face au bureau, qui est à 3 mètres de distance de son bureau. Judith se rassoit et lui dit: j'ai reçu votre offre d'assurance pour une demande d'emploi. Votre demande nous intéresse au plus haut point. Merci, madame. Judith lui dit: mais nous aimerions savoir, c'est pourquoi avez-vous choisi notre groupe? Et oui, parce que maintenant, il faut que le demandeur d'emploi dise pourquoi il a choisi ce groupe et qu'il dise que c'est parce que c'est le meilleur, le plus beau, etc. Et que l'on veut travailler dans ce groupe, pour ce groupe, pas pour gagner sa vie. Non. Parce que l'on aime le groupe et que l'on est prêt à tout, à lui sacrifier tout pour ça, etc. C'est pour cela que le directeur du personnel est devenu le directeur des relations humaines. C'est mieux pour faire passer la pilule plus facilement. On n'embauche que les gens qui aiment le groupe et le reconnaissent, le connaissent, sont prêts à tout pour lui, à tout se sacrifier. Brigitte lui dit: si de travailler dans votre groupe, c'est parce que je trouve que vous êtes le plus dynamique, le plus passionnant des groupes et le plus puissant. Il faut bien flatter le groupe et dire dynamique, cela démontre que l'on aime les choses qui vont de l'avant, qui bougent et qui prennent des décisions. Et ça leur prouve que vous êtes une battante, quoi. Brigitte lui dit: très bien. Cela fait combien de temps que vous recherchez du travail? Plus la recherche du travail est longue, moins c'est bon pour vous. Parce qu'une personne qui recherche du travail depuis longtemps, cela veut dire qu'elle n'est pas capable d'en rechercher et que l'on n'est pas assez dynamique et que l'on ne sait pas, on ne sent pas que vous recherchiez vraiment du travail. Brigitte lui dit: c'est la première fois, madame, que je le fais. Brigitte lui dit: bien, très bien. Brigitte sourit. Elle se dit que cette femme a du caractère et qu'il faut s'en méfier. Brigitte lui dit: c'est très bien.
mais en entrant chez nous, vous devez savoir, c'est que vous ne devez défendre que les intérêts du groupe et rien d'autre que les intérêts du groupe, et que le groupe passe avant tout. Je sais, c'est que votre famille a des intérêts avec nous, mais là aussi, ce n'est pas votre famille qui doit passer avant nous, mais nous avant eux. Des fois, ce ne sera pas facile d'être et de défendre le groupe, mais il le faudra, même être et être contre vous, si ça défend les intérêts du groupe. Alors, vous êtes d'accord ? Brigitte lui dit. Oui, bien sûr. Brigitte lui dit. Attention ! Ce que je dis là n'est pas illégal, c'est normal. Qu'une personne d'un groupe le défende. C'est pour cela qu'avant d'entrer dans une entreprise, il faut être sûr d'accepter sa politique et d'être en accord avec elle. Tu dis, mais je le suis, madame. Je dis, tu dis, bien. Je vais vous prendre pour 3 mois d'essai comme conseillère spéciale du groupe. Après ces 3 mois, vous aurez 6 mois d'essai et après, vous serez embauché à plein temps. Vous commencez la semaine prochaine, à 9h. Venez dans mon bureau à 9h, mercredi prochain. Votre contrat sera prêt. Merci, madame. Judith se lève et lui dit. Alors, à mercredi 9h, mademoiselle. Brigitte se lève. Et Judith la raccompagne. Brigitte est heureuse. Elle a trouvé du travail dans le groupe le plus puissant du monde. Le soir, elle va chez Auguste pour le lui dire. Il la reçoit au salon avec sa femme.
C'est très bien, et tu pourras défendre nos intérêts.
Brigitte lui dit, c'est pas si simple que ça. On m'a bien fait comprendre, c'est que je devais défendre que leur intérêt. Ils savent que ma famille a des intérêts avec eux, mais ils ne veulent pas le savoir. Auguste lui dit, tout ça, ce sont des histoires. Brigitte lui dit, non, malheureusement. Non.
Et le mercredi, à 9h, elle est dans le bureau de Judith qui lui fait signer son contrat. Où il y a marqué, dessus, qu'elle doit défendre que les intérêts du groupe. Et si elle fait quelque chose qui nuirait au groupe, elle serait renvoyée. Aucune entreprise du groupe Franblanc, Genetou, Pontoise, etc. ne l'embaucherait. Et aurait une amende de 60 000 francs à verser, plus un procès. Judith le lui montre bien.
Attention, méfiez-vous des propositions que l'on peut vous faire. Une fois que tout est signé, je vais vous présenter votre bureau.
Je vous présenterai aussi votre secrétaire. Venez. Elle sort du bureau. Judith va la mener à l'étage au-dessus. Service juridique, préparation de dossier, vente, expulsion, litige et épluchage des lois. Prenne l'ascenseur. Arrivé à l'étage, il sort de l'ascenseur et elle le fait rentrer dans son bureau. Entrez.
Le bureau de Brigitte est une grande pièce, tout en vitre. Et il y a même une terrasse, meuble de verre. Dans le bureau, il y a un coin salon. Brigitte lui demande, cela vous convient? Judith lui demande, cela vous convient? Oui, merci. Judith lui dit, comme vous le voyez, tout est en verre. C'est pour montrer que nous n'avons rien à cacher. La psychologie des entreprises faite de psychologie de bazar. Puis Brigitte ouvre une porte et dit, c'est le bureau de votre secrétaire, Mademoiselle Lapin Maryse, la petite nièce de Mademoiselle Lapin, la directrice des relations clientèle. Une jeune fille en tailleur gris, lunettes et dents de lapin.
Bonjour mademoiselle,
Judith lui dit. Votre travail sera d'étudier les dossiers d'expulsion pour éviter que l'on soit convoqué en justice. Cela vous va?
Oui, merci,
Judith lui dit. Le merci est de trop. Bien, je vais vous laisser avec mademoiselle Lapin qui vous dira ce que vous avez à faire. Elle les quitte. La secrétaire lui dit en montrant sa pile de dossiers qui est sur son bureau. Il y a des tas de dossiers à étudier. Judith est dans le bureau de Gilbert. Elle lui dit, j'ai embauché à l'essai la fille de Bosch, mais attention, c'est une famille dangereuse. Gilbert lui demande, alors pourquoi l'avoir embauchée? Il lui dit, pour lui mettre une laisse et lui fournir sa portée. Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.